Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « La guerre de 100 ans, apprendre à vaincre d'amables sablons du corail » est un essai d'histoire médiévale publié chez Passé Composé en 2022. L'ouvrage propose une lecture renouvelée du conflit franco-anglais de 1337 à 1453, non comme une simple suite de batailles célèbres, mais comme une confrontation politique, militaire et institutionnelle de longue durée. Son objectif est d'expliquer pourquoi les Valois ont fini par l'emporter sur les Plantagenets, alors même que ces derniers semblaient longtemps disposer d'atouts décisifs. Le livre met ainsi l'accent sur la stratégie globale, la fiscalité, la diplomatie, la mobilisation des élites et la construction progressive de l'État royal. Il s'adresse autant aux lecteurs d'histoire générale qu'à ceux qui cherchent à comprendre les mèmes profonds de la victoire française et la transformation du pouvoir monarchique à la fin du Moyen-Âge. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une guerre de dynastie plus qu'un mythe national. L'un des apports essentiels du livre est de replacer la guerre de 100 ans dans sa réalité initiale. Il s'agit d'abord d'un affrontement entre deux dynasties, les Valois et les Plantagenets, et non d'une guerre nationale au sens moderne. Cette distinction est importante, car elle permet de comprendre les enjeux de souveraineté, d'héritage et de légitimité qui structurent le conflit. Amable sablon du corail montre que le récit héroïque construit plus tard par l'historiographie masque la complexité d'un espace politique morcelé où s'entremêlent domaine royal, apanage, fidélité seigneuriale et enjeux locaux. En insistant sur la durée du conflit, l'auteur fait apparaître une guerre faite d'alternance, de recul, de recomposition et de retournement, bien loin d'une progression linéaire. Le livre aide ainsi à sortir d'une lecture simplificatrice, centrée sur quelques grandes batailles, pour retrouver la logique profonde d'une lutte de pouvoir entre deux maisons royales rivales. Deuxièmement, la victoire des Valois comme résultat d'une stratégie globale. Le cœur de l'ouvrage repose sur une idée directrice forte. Les Valois ont gagné parce qu'ils ont su penser la guerre comme une stratégie globale. L'auteur souligne que la supériorité française ne tient pas à une seule innovation militaire ni à un sursaut ponctuel, mais à l'articulation progressive de plusieurs leviers. La dimension militaire compte, bien sûr, mais elle s'inscrit dans un ensemble plus large qui inclut la diplomatie, l'administration, la propagande, les relations avec les villes et la gestion des fidélités aristocratiques. Cette approche permet de comprendre pourquoi la victoire française n'est pas présentée comme un miracle, mais comme le résultat d'un apprentissage politique. Le livre insiste aussi sur la conquête des cœurs et des âmes, c'est-à-dire sur la nécessité d'obtenir l'adhésion des princes, de la noblesse et des populations urbaines. La guerre devient alors un problème de coalition, de légitimité et de consentement, autant qu'un affrontement armé. Troisièmement, fiscalité, administration et armée permanente, les fondements matériels du redressement. L'ouvrage accorde une place centrale aux instruments concrets de la puissance monarchique, en particulier la fiscalité et l'administration. Sablon du corail montre que la capacité des Valois à soutenir l'effort de guerre dépend étroitement de leur aptitude à lever des ressources régulières et à les organiser efficacement. La création d'une armée permanente sous Charles VII, avec les compagnies d'ordonnance, apparaît comme un tournant majeur, car elle rompt avec une logique de mobilisation plus intermittente et renforce durablement le pouvoir royal. Cette évolution ne relève pas seulement du domaine militaire, elle suppose une meilleure extraction fiscale, des circuits administratifs plus solides et un encadrement plus étroit du territoire. Le livre met ainsi en lumière le lien direct entre financement de la guerre et transformation de l'État. Il montre que la victoire française n'a pu être obtenue qu'au prix d'un renforcement structurel des institutions royales, ce qui explique pourquoi la guerre de 100 ans peut être lue comme un laboratoire de la modernité politique. Quatrièmement, Jeanne d'Arc et Charles VII, une séquence stratégique, non un épisode isolé. Le traitement de Jeanne d'Arc constitue un autre point fort du livre. L'auteur ne la présente pas comme une figure purement mystique ou comme une exception détachée des logiques de pouvoir, mais comme un élément intégré à la stratégie de Charles VII. Son intervention intervient à un moment où le royaume a besoin d'un redressement symbolique autant que militaire. Le livre montre que son action participe à la restauration de la légitimité royale, à la remobilisation des soutiens et à la reconquête de villes et de territoires. Le sacre de Charles VII à Reims prend alors tout son sens. Il ne s'agit pas seulement d'un rite religieux, mais d'un acte politique majeur qui réaffirme la souveraineté du roi. Cette lecture permet de dépasser l'imagerie simplificatrice attachée à Jeanne d'Arc pour la replacer dans un ensemble plus vaste de calculs, de circonstances et d'objectifs politiques. L'épisode joannique devient ainsi une séquence décisive dans un processus de restauration monarchique plus large. En dernier lieu, une guerre fondatrice pour l'État moderne et la pensée stratégique, au-delà de l'histoire événementielle, le livre propose une réflexion sur les effets de long terme de la guerre de 100 ans. L'un de ses enjeux majeurs est de montrer que ce conflit a contribué à la formation de l'État moderne. La guerre oblige la monarchie à mieux lever l'impôt, à renforcer ses organes de gouvernement, à fixer plus durablement son autorité sur le territoire et à construire une armée permanente. Cette dynamique annonce des formes plus centralisées de pouvoir, souvent associées à l'absolutisme. L'intérêt du livre tient aussi à son usage d'une grille de lecture stratégique. La guerre devient un objet d'analyse comparable à d'autres conflits de longue durée, où la victoire dépend autant des ressources, des institutions et de la cohésion politique que du talent des chefs militaires. C'est ce qui rend l'ouvrage utile non seulement pour l'histoire médiévale, mais aussi pour une réflexion plus générale sur la conduite de la guerre et la fabrication de l'État. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord aux lecteurs qui veulent comprendre la guerre de 100 ans sans se limiter aux grandes batailles ou aux figures les plus connues. Il conviendra particulièrement aux étudiants, aux passionnés d'histoire médiévale, aux lecteurs intéressés par l'histoire politique, ainsi qu'à ceux qui cherchent une lecture structurée des mécanismes de la guerre et du pouvoir. Son intérêt pratique est de montrer comment une victoire durable suppose bien davantage que la valeur militaire. Elle exige des ressources, une administration efficace, une stratégie diplomatique et une capacité à obtenir l'adhésion des élites et des populations. Sur le plan intellectuel, l'ouvrage se distingue par sa volonté de relier le conflit à la naissance de l'État moderne, ce qui lui donne une portée plus large qu'un simple récit historique. Par rapport à d'autres livres sur le sujet, il se démarque par sa synthèse claire, son angle stratégique assumé et sa capacité à rendre intelligible un épisode souvent perçu comme confus. C'est un essai utile pour comprendre non seulement comment les Valois ont gagné, mais pourquoi cette victoire a durablement transformé la monarchie française. Si vous souhaitez soutenir Amable Sablon du Corail, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!